vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 98. Pierre Henninger, l'homme qui venait du froid. Chers amis, bonjour. Mais vous avez vu ? Non, mais regardez bien, il ressemble à Richard Burton. Vous savez, le célèbre espion du film de Martin Rees. C'est un film britannique qui date de 1965 et c'est adapté du roman de John le Carré. L'espion qui venait du froid. Alors, je ne sais pas si Pierre Henninger est un espion. Bonjour, Pierre Henninger.
Bonjour.
Mais en tout cas, vous venez du froid puisque c'est votre métier. Les appareils frigorifiques industriels. Et alors, l'espion va passer en Allemagne de l'Est, ce qui nous fait une belle liaison avec notre invité de la semaine passée, dans, vous l'avez bien connu, l'émission de radio sur Judaïka Strasbourg. Et alors, nous recevions un spécialiste de la grisaille en RDA, le professeur historien Emmanuel Droit. Mais dans le film qui nous intéresse, Pierre Henninger, dans le film, le Checkpoint Charlie avait été reconstitué à Dublin. Et dans les studios, nous ne voyons pas Elizabeth Taylor. Est-ce que vous aimez toujours Elizabeth Taylor ? Non. Ben, je ne sais pas.
Si, mais j'aime beaucoup Elizabeth Taylor.
Oui, vous auriez été prêt à vous marier une troisième fois avec elle ?
Les bijoux sont un peu chers. Oui, il faut lui offrir quand même.
Ils étaient faux, hein, paraît-il.
Ah, je ne savais pas. Voilà. Alors, encore des illusions perdues.
Alors, on dit Pierre Henninger, avec l'accent anglais ou américain, Pierre Henninger, ou Henninger en Alsace, ou Henninger à l'intérieur. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle ?
Alors, j'ai l'habitude de dire une chose. Soit on s'est prononcé à l'alsacienne et c'est Henninger, soit on ne sait pas, ce qui est dans, quand même le cas dans 90% des cas. Et à ce moment-là, je préfère qu'on dise Henninger. Ce que je souhaite pas, c'est les Henninger et les Henninger, etc. Donc Henninger, c'est très bien.
C'est mais c'est quand même pas mal d'avoir plusieurs noms.
Oui, ça sert parfois.
Ah oui, voilà. Bon, ma question préférée. Alors,
la présentation sur mon métier, ben, ça fait quand même maintenant 25 ans que je ne fais plus ce métier d'installation frigorifique. Et j'insiste aussi sur un point, c'était aussi la climatisation qui était aussi, faisait partie du domaine d'activité.
Et qui pollue beaucoup.
Alors, on essaye de la faire polluer de moins en moins. Et on arrive aujourd'hui à trouver des solutions. Mais c'est vrai qu'à une époque, à l'époque où moi j'étais dans ce métier, ce qu'on appelait le fréon, qui est un nom commercial d'ailleurs, était quelque chose qui polluait, qui était responsable
du
trou.
C'est comme Kleenex, hein, c'est ça.
Non, mais c'était surtout responsable des trous de l'ozone à l'époque.
Oui. Ouais. Mais non, mais le nom fréon.
Oui, c'est comme, frigidaire, voilà, réfrigérateur, Kleenex, voilà.
Caddie.
Oui, exact, caddie. Oui, caddie. Oui.
Voilà. Et donc là, on se définit par rapport à votre froid. Mais remontons un petit peu avant l'ère glaciaire.
Oui.
Vous êtes un petit jeune de Lavant-de-Senaux. Racontez-moi cela.
Alors, Lavant-de-Senaux, oui, moi je suis né en 50, donc dans une Vancenaux qui était encore agricole, qui n'est pas comme elle est aujourd'hui, qui est devenue un faubourg un peu chic de Strasbourg. Mais moi j'ai connu une Vancenaux dans laquelle, je dirais, ce qu'on considère aujourd'hui comme le confort n'existait tout simplement pas, qui était l'eau courante, qui était les toilettes, qui était le chauffage dans toutes les chambres.
Vous aviez donc un locus au fond du jardin ?
On avait,
du tas de fumier.
Oui,
avec
du tas de fumier,
poules.
Tout à fait. Oui. Mais bon, c'était un tas de fumier qui était quand même très contrôlé. Quand même.
Alors, est-ce qu'il était devant ou derrière ?
Derrière.
Derrière, hein. C'est en Lorraine qu'il est devant pour montrer
oui.
que la maison a des moyens.
Je vois que vous êtes vosgien, je crois.
Oui, c'est ça. Oui. Enfin, voilà. Oui. Et alors donc, à l'avant de ce nom, mais alors aller à Strasbourg, c'était toute une expédition.
Oh non, il y avait le train, il y avait quand même déjà, non, il y avait le train, et puis bon...
Il y avait le tram
quand
le
je
Nord.
Dis, quand je... Autre sujet. Mais quand je dis ça, ça semble toujours un tout petit peu misérabiliste. Non, c'était simplement parce que ça n'existait pas. Il n'y avait pas ces conforts qu'on a aujourd'hui, et que... et c'est pas une question de riche ou pas riche, hein. C'est, je raconte toujours que peut-être pas de chauffage dans les chambres, mais la télé en 56. Donc c'était une contradiction totale entre d'une part le confort qu'on n'a pas, et puis finalement des choses. Alors la petite histoire, c'est que j'avais un ballon de foot en cuir. Et ça, à l'époque, c'est quelque chose qui revenait très cher. Il fallait quand même cousu main, etc. Et c'était assez cher.
Et les coutures à l'intérieur.
C'était quand même quelque chose d'assez cher. Ce qui m'a permis de jouer dans l'équipe de foot de l'Avancenot des Benjamins ou des Minimes, tout simplement parce que comme ils avaient besoin d'un ballon de foot,
vous apportiez votre ballon.
J'ai pas vu beaucoup mon ballon pendant le match.
Oui, il fallait courir derrière. Oui. Alors, attendez, la télévision 1956, mais c'était les programmes allemands alors.
Vous
chantez le Schlager.
C'est vrai que il y avait le. Je chantais pas moi le Schlager, mais mon grand-père adorait écouter justement ces émissions avec. Oh, ça veut plus rien dire aujourd'hui, avec des gens comme Rudolf Schock, Rottenberger,
les ancêtres de Robin Léon.
Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vrai que moi j'ai beaucoup. Écouter, parce que j'étais là et que mon grand-père regardait ça, j'ai beaucoup écouté des émissions allemandes.
Oui, mais parce qu'à l'époque, il y avait deux standards. Il fallait choisir soit une télé française, soit une télé allemande.
Je ne crois pas en noir et blanc.
Il n'y avait pas encore... Si, si, il n'y avait pas encore le bistandard.
Ah, d'accord. Pas okay,
les, c'est mais... Oui, non, c'est De Gaulle qui a imposé la qualité, mais il est... Voilà.
Voilà.
Mais,
ouais.
Oui.
Mais je me souviens bien, moi, j'ai...
Les Alsaciens, ils achetaient la télé qui marchait le mieux, donc c'était la télé allemande. Et c'est pour ça qu'il y a eu une telle... un tel engouement pour la Schlagermusik, et après on partait en vacances en Autriche, et donc...
Oui, puis il y avait surtout cette idée, par exemple, le concert du Nouvel An, c'est des choses qu'il fallait... qu'aujourd'hui, on ne rate pas non plus, mais qui, à l'époque, était encore beaucoup plus importante...
Tout le monde faisait de la musique aussi, parce que... Dans chaque, dès qu'il y avait 400 habitants dans un village, il y avait une brasserie et une chorale un orchestre.
Alors moi, je dirais que c'est peut-être pas ce que j'ai vraiment connu, moi, dans le village. Parce que finalement, à 12 ans, je suis allé au collège Saint-Étienne, donc en ville, en internat. Parce que comme mes parents travaillaient tous les deux, étaient dans l'entreprise existait déjà. Donc du coup, moi je me suis retrouvé pendant 3 ans interne au collège Saint-Étienne à Strasbourg. Et ça m'a un peu fait quitter l'ambiance village. Après, on est resté un peu sur Strasbourg. J'ai essayé de revenir à un moment donné d'ailleurs à l'Avancenot, l'appel un peu de la terre, en se disant il faut revenir à ses racines.
Est-ce que c'est aussi le goût de la confiture à la framboise? Est-ce que vous aimez ça?
Alors, j'aimais bien les confitures que faisait ma tante, qui étaient des confitures à la fraise, mais les fraises étaient presque entières et il y avait assez peu de sucre. Donc elles étaient plus liquides, etc. Les confitures.
Mais alors, il fallait les garder au frigo s'il n'y a pas trop de sucre.
Il fallait les manger rapidement.
Il fallait les manger vite. C'est ça, c'est pas des confitures qui se gardent 2 ou 3 ans.
Non.
C'est ça. Mais vous aviez des frigos à la maison, non?
Oui, non. Mais bon, ça fait rien. Ces confitures-là, d'ailleurs, elles étaient tellement bonnes qu'on ne les laissait pas moisir.
Voilà. Et alors, quand vous aviez 8 ans, 10 ans, 12 ans, qu'est-ce que vous lisiez comme livre? Les Clubs des 5, déjà?
Alors là, c'est une bonne question. J'avoue que là, j'ai un peu de mal. J'avais des Clubs des 5, je me souviens, mais je crois que oui, ça, il y avait. Mais c'était un peu plus tard. Il y avait Pilote aussi qui existait. Oui. C'était ce genre de revue. Voilà. Plutôt Pilote que Tintin, d'ailleurs.
Et à Saint-Étienne, on vous laissait lire des choses comme ça, un peu mécréantes.
Non. Oh, Saint-Étienne, oui, mais Saint-Étienne, c'est pas non plus, c'était pas une discipline de fer, faut pas exagérer, non. On n'allait pas à la messe tous les matins, faut pas, c'était bien Saint-Étienne.
Et à confession?
Ben oui, mais la confession...
Est-ce qu'il fallait inventer des péchés pour avoir quelque chose à dire à la confession?
Alors on n'avait pas besoin de les inventer puisqu'on avait une liste. On avait une liste des péchés. Donc,
il fallait choisir.
À un moment donné, on ne choisissait pas les pires, hein, mais on choisissait toujours. Comme ça, on avait une petite liste, parce que ce n'était pas évident à ce moment-là de trouver le péché. Alors, la gourmandise, ce genre de choses.
Oui,
voilà,
hein, ça
passait bien.
Oui.
Et puis, trois, je vous salue, et un acte de contrition, et puis c'était passé.
Voilà, c'était bon. Voilà. Ah, mais ça, c'est vraiment la culture, l'identité alsacienne. Enfin, est-ce qu'à cette époque, donc les années 60, il y avait encore une rivalité ou un antagonisme avec les protestants et avec ceux de confession israélite, hein,
comme disait. La Vansenau, pour moi, est un village catholique.
Oui.
Heurt, qui n'est pas loin, est un village protestant
oui.
Mais on se fréquentait pas vraiment. C'était la ligne de chemin de fer fait l'Avancenau, Kielstedt, Gamsheim, Drusenheim. Donc c'est sur cet axe-là qu'on avait les contacts avec les villages. Le côté Heurt, on ne le voyait pas. Et il n'y avait pas de juifs à l'Avancenau.
Non. Alors moi j'étais au lycée à Haguenau,
ouais.
à la même époque, là on avait effectivement, mon souvenir, j'ai réfléchi, il y avait les catholiques, il y avait les protestants, il y avait les juifs, et il y avait les poliomélites. Alors je ne sais pas s'il y avait un polio qui était juif, mais voilà, donc c'était un petit peu le clin. Mais il y avait, alors je peux vraiment le dire sincèrement, hein, c'était bon, en 11e, 10e, 9e, 8e, mais aucun ostracisme, aucun racisme, rien. Enfin, c'était normal de trouver que les autres étaient différents.
Ben, c'est quand même la caractéristique des enfants. Je pense que c'est qu'au moment de l'adolescence, de l'éducation, etc. Mais entre enfants, je pense qu'il n'y a pas, de problème à ce moment-là. Et je le répète, le village était catholique. Donc moi, je n'ai pas cette expérience de contact avec d'enfants d'autres religions, à ce moment-là, bien sûr.
Est-ce qu'il y avait un cinéma à la Vansenau ?
Non, pas du tout.
Alors, il y avait quel loisir ?
Le foot. Il y avait les copains, il y avait le foot, surtout.
Et les filles ne jouaient pas au foot.
Ah non, les filles ne jouaient pas au foot. Et c'est vrai que moi, j'ai quitté, je disais, vers 12 ans. Hein, donc finalement, c'est vrai que j'ai pas beaucoup fréquenté les filles de l'Avancenau, puisque j'étais plus à l'Avancenau.
Ah.
Et j'étais interne en plus au Saint-Étienne.
Alors vous avez fréquenté les filles d'Italie.
Ah, c'est plus tard. Oui.
C'est plus tard.
Mon épouse est donc d'origine italienne, ça c'est vrai.
Vous avez voyagé et... Alors, vous êtes allé pas très loin, parce que les Alsaciens, ils allaient à Rimini, non ?
Alors, c'était à Grado, qui est entre Venise et Trieste, tout à fait.
Oui.
Pendant des années, on a été dans ce coin adriatique, qui ressemble un peu avec les plages, un peu comme Rimini, Catholica aussi, qui était aussi une destination très, très connue pour les Alsaciens. Oui.
Oui, mais alors pourquoi ce goût des Alsaciens pour la côte adriatique ?
Ah, alors là, il y a deux choses. Il y a le côté géographique, c'est-à-dire la proximité quand même, c'est relativement simple.
Il faut quand même traverser l'Autriche.
Même la Suisse. Même la Suisse. mais après, il y a les plages, il y a... C'est vrai qu'il y a peut-être un peu aussi une fréquentation allemande qui était relativement importante à ce moment-là, qui a peut-être joué. Et puis, j'ai toujours pensé que l'Italie était un pays qui faisait finalement l'envie de beaucoup d'autres pays. Quand je regarde un tout petit peu l'Italie, je suis un grand admirateur de l'Italie. C'est un pays dans lequel la civilisation, l'art de vivre, les paysages, etc., donnent envie à beaucoup de pays et à beaucoup de gens. Et je pense même qu'il y a inconsciemment une certaine jalousie par rapport à l'art de vivre italien, parfois.
Oui.
Aussi bien les Français et surtout les Allemands.
Alors, il y a beaucoup d'Italiens en Alsace. Et encore plus dans les Vosges, en fait, c'est les Italiens qui allaient travailler dans les filatures dans les Vosges, et qu'on dit que c'est des Vosgiens qui se sont arrêtés en cours de route en Alsace.
Oui, comme on dit d'ailleurs que les Alsaciens, c'est des Belges qui ne sont pas arrivés en Suisse, hein,
oui.
C'est un peu pareil. Non, oui, moi j'ai, en fait, mon épouse est originaire d'Italie du Nord, justement, mais cette génération qui est arrivée début du XXe siècle, puisque l'émigration italienne... du Nord, et plutôt du Nord quand on parle du début du XXe, et ils sont arrivés à Metz, justement en Lorraine, à cause de l'industrie, à cause des mines, etc., et qui se sont retrouvés là-bas. Donc, mais où c'était déjà, mon épouse est la troisième génération d'Italiens, donc il oui. n'y a pas...
Il y a un Alsacien historien, je parle de ça, parce que Gérard Noiriel, qui a écrit sur l'immigration italienne en Alsace, ça s'est plutôt bien passé, alors que dans le midi de la France, il y a eu des massacres. Hein. Au début du siècle, les Italiens étaient considérés comme... comment dire
Oui, il y avait d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle ville, où il y avait, je crois que c'est quelque part dans le Massif central ou dans les Cévennes, où il y avait eu vraiment des problèmes et même... je crois un ou deux morts à ce moment-là pendant des trucs. Non, ça m'a peut-être aidé, ça, d'ailleurs, ce côté, le côté du côté italien de ma femme, d'aimer l'Italie aujourd'hui, hein, c'est sûr.
C'est peut-être ça l'identité alsacienne, c'est de se mélanger, entre guillemets, avec d'autres gens qui viennent. Il y a tellement de noms alsaciens qui sont d'origine polonaise, qui sont d'origine arabe, qui sont d'origine...
Oui, mais je crois que ça va encore plus loin. Je crois que l'Alsace a cette caractéristique d'être à la fois latine et germanique. Latine, parce qu'il y a le vin, et de façon... Et on sait bien que les deux frontières de la Méditerranée, c'est d'un côté l'olivier, mais on peut aller plus loin, la vigne. Et puis vous avez en Allemagne une autre industrie qui est la bière. Et si vous regardez bien dans les autres, d'autres régions, il y a assez peu de régions, il y a la foi. Alors je ne dis pas, il y a des régions où il y a bien sûr la bière et le vin, mais il y a très peu de régions où c'est une vraie industrie. Les deux sont une vraie industrie, la bière et le vin. Et je crois que c'est une des caractéristiques de l'Alsace. C'est ce côté mélange latin-germanique de l'Alsace. C'est ça.
Selon vous, quelle est la plus belle ville en Alsace? Quand je dis plus belle, parce qu'il y a des publicités, il y a des concours d'office du tourisme, enfin c'est commercial, mais en dehors de cet aspect-là.
Non, moi, c'est Strasbourg.
C'est Strasbourg,
oui. Oui, ça reste Strasbourg. Hein.
Je suis d'accord. Après Wissembourg, peut-être, mais c'est Strasbourg.
Ça dépend.
Mais
je suis né
à Wissembourg.
Oui, donc c'est ça. Triche. Mais je ne veux pas me fâcher avec les Haut-Rhinois non plus, mais bon...
Oui, encore que... Il paraît qu'il y a une association de Haut-Rhinois exilés à Strasbourg. C'est un gag, hein. Je crois que c'est l'association de promotion de l'Alsace qui a fait ça.
Il faudrait peut-être créer une association de Barinois qui sont exilés dans le Haut-Rhin.
Hein. Oui, mais il faut demander à François Brunagel, vous connaissez. Non, c'est un grand Européen, Alsacien, Barinois et tout. Et alors, quelle est la plus belle ville d'Italie, selon vous, puisque vous avez beaucoup voyagé en Italie?
Alors, je répondrai par deux choses. Il y a la région qui est... La Sicile et la ville, ça surprend peut-être, c'est Milan.
Ah, oui. Saint-Ambroise à Milan.
Ah ben voilà, Ambroise, 7 décembre, n'est-ce pas?
Le lendemain de la Saint-Nicolas.
Ah, et puis surtout la Prima, le premier spectre de la Scala,
le dôme,
etc. Oui, non, Saint-Ambroise, qui est le patron de Milan. Oui, Milan, parce que Milan, il y a beaucoup de choses à Milan. On connaît mal Milan, je crois, d'une façon générale. On voit ça comme une ville industrielle, bon, naturellement capitale de la mode, mais il y a des choses magnifiques comme le musée de la Brera, comme... justement, la bibliothèque ambrosienne, la cathédrale, comme dit, il y a énormément de choses. Milan est une ville très dynamique et dans laquelle vous avez à la fois l'art, vous avez aussi la mode, parce que c'est toujours très agréable de se balader dans Milan et de regarder quelle sera la mode de l'année suivante.
J'ai une petite anecdote. Aller à Milan en voiture depuis Strasbourg, on part, on roule toute la nuit et on arrive à 4h du matin. Il y a déjà des cafés qui sont ouverts et vous buvez un ristretto. Oui. Donc, mais c'est une gorgée. Et si vous ne l'avez pas bu dans les 10 secondes, le cafetier vous le reprend, il vous en refait un autre chaud. Et c'est...
Alors, la petite histoire, c'est que justement, il faut que la tasse soit bien chaude. Et ça, c'est le secret du café italien, c'est la tasse. Le café, bien sûr, mais la tasse doit être très chaude. Et c'est pour ça, alors ça ne se passe pas à Milan, mais à Naples, par exemple, les tasses sont mises dans une eau bouillante au-dessus de la machine à café. Et quand vous prenez votre tasse, vous ne pouvez quasiment pas la toucher. tellement elle est chaude. Et ça, là, du coup, on a un peu plus de temps pour boire son café. Donc, le secret est dans la tasse aussi.
Alors, merci Pierre Henninger de cette recette formidable qui va faire plaisir à tous les Alsaciens. Chauffez vos tasses. Et voilà. Et donc, moi, je pensais que vous alliez me répondre Florence, à cause de tous les musées.
Bien sûr, mais moi, ma ville préférée. Après, en Italie, vous avez un choix tellement énorme. Parce qu'il y a Florence, mais bon, il y a Rome, il y a Naples, Palerme, comme dit, en Sicile. Mais pas que Palerme en Sicile. Sicile, j'insiste beaucoup là-dessus, parce que Sicile, vous avez l'Europe en Sicile, quoi. Vous aviez les Grecs, les Romains, les Espagnols, les Français,
les Autrichiens. Et maintenant la mafia. Ou alors c'est un cliché.
Ça dépend où, je
quand
crois.
Quand on se promène
non,
en ville,
on se promène, on le sent pas. Non.
On sent pas.
Alors, on est touriste en même temps. Oui. On est touriste, c'est-à-dire, on va rester dans des coins touristiques. Vous n'allez pas. Mais c'est vrai qu'à Palerme, par exemple, vous faites 200 mètres, vous vous retrouvez quand même dans des endroits où vous commencez à vous dire oula, où est-ce que je suis là.
À Strasbourg aussi, hein, tout d'un coup vous vous trouvez avenue des Vosges et vous vous demandez c'est quoi cet embouteillage.
Sujet délicat.
Je me permettais de faire cette petite digression puisque vous avez été aussi au conseil municipal de Strasbourg.
Oui, de 2001 à 2008, puisqu'on a fait 7 ans au lieu de 6, pour des raisons de coordination d'élections. Oui, j'ai été au conseil municipal sur la liste de Catherine Trautmann en 2001, en étant ensuite dans l'opposition à l'époque du tandem, comme on l'appelait à l'époque, Keller-Grossmann.
Est-ce que c'est jubilatoire d'être dans l'opposition ?
Oui, il y a un côté intéressant dans l'opposition. Alors, j'ai arrêté en 2008, donc je ne peux pas comparer. Il y a un côté intéressant parce que dans l'opposition, d'abord, une chose que vous demande la majorité, c'est finalement d'en faire le moins possible. Donc, vous n'êtes pas poussé à bosser.
Mais quelque part, vous dites, attendez, le prochain coup, c'est moi qui serai là.
Oui, peut-être. Et puis, alors, il y a une autre chose, c'est que vous n'êtes pas vraiment contrôlé dans votre expression. C'est-à-dire, comme vous n'êtes pas aux affaires, comme on dit, ben finalement, vous êtes plus libre dans l'expression que si vous êtes dans la majorité où il faut
mais
faire
vous
attention.
Vous avez quand même une légitimité pour vous exprimer.
Ah ben oui.
On
me filait toujours tout ce qui était budget, tout ce qui était finance et autres, en pensant, à tort d'ailleurs, que parce qu'on est chef d'entreprise, on a été chef d'entreprise, on s'y connaît en finance publique. Alors que finalement, non. On ne s'y connaît pas, mais bon, après, on essaye quand même de s'y intéresser.
Vous auriez pu initier des jumelages avec des villes en Italie, par exemple ?
Oui, mais je n'ai pas eu l'occasion, là. Non, je n'ai pas eu l'occasion. À quel jumelage ? Ça serait intéressant. Avec qui, hein ?
Oui, alors, trouver une ville...
Bologne.
Oui.
Bologne. Vous ne voyez pas Milan, mais Bologne. Mm-hmm. Ça serait un bon jumelage. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il n'y a pas un jumelage entre une ville... entre Strasbourg et une ville italienne, peut-être.
Peut-être, oui. Je sais, avec Boston, ça.
Oui, ça, c'est sûr. Connu. Belle ville, d'ailleurs.
Oui, c'est autre chose, oui. Voilà. Alors, donc, on fait un petit peu le tour de votre personnalité. Là, il reste encore quelques minutes. Je vous ai déjà demandé pour la confiture. Est-ce que vous aimez la tarte au fromage ?
Oui.
Qui est typiquement alsacienne.
Alors, ce qui va vous surprendre, c'est que du côté de Metz, à Moulins-les-Metz, il y a une pâtisserie qui fait pour moi la meilleure tarte au fromage que je connaisse. Donc il faut aller jusqu'à Metz, à Moulins-les-Metz, oui, qui est
alors
plus
si
légère
vous,
que
si
la.
Si vous ne voulez pas aller trop loin, vous allez rue Gailler.
Oui.
Je leur fais constamment de la publicité. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'il a un petit secret pour faire une tarte au fromage extrêmement légère.
Il faudra que je l'essaye.
Oui, oui, il faut l'essayer et tout. Oui. Mais autrement, vous êtes quand même quelqu'un de gastronome.
Oui, bon, ça se voit d'ailleurs à mon physique, hein, peut-être même un peu gourmand par moment,
voilà.
Pas que ce que gourmet.
Alors, vous aviez cité les péchés que vous énonciez, donc déjà la gourmandise à 8 ans, à 10 ans...
Non, c'était sur la liste à l'époque.
Là, c'était sur la liste,
oui,
la gourmandise.
Oui, c'était assez facile comme péché.
Oui, c'est un péché véniel.
Véniel, tout
véniel
à fait.
Véniel et tout, et alors les péchés mortels...
Mais, bon, ils n'étaient pas sur la liste.
Oui, mais je sais pas, je ne me souviens pas... Je pense que j'ai dû faire des péchés mortels, mais je suis toujours là. Voilà.
Ça, j'ai un peu oublié.
C'était
quand même,
jouer comme ça, péché mortel, péché mortel. Voilà. Bon, ben écoutez, merci beaucoup Pierre Heininger. Hein. C'était l'épisode numéro 98 de Vous l'avez bien connu, Pierre Heininger, l'homme qui venait du froid. Et alors, la semaine prochaine, on va réussir le concours de Sciences Po Paris et se casser 4 fois le bras gauche, ce qui à 18 ans n'est pas banal. Il s'appelle Maxime Clavel et je vous assure, il est époustouflant. Alors, dans 10 ans, quand Maxime sera ministre, cette interview, elle va devenir vintage, hein, comme on dit. Hein, ce sera, voilà, un grand truc. Alors, vous l'avez bien connu sur Radio Judaïca à Strasbourg, à la technique Thomas Marinelli, tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. Et mon nom est Ambroise Perrin. Two fellows meet, like you and I. No connection between them.